Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve en direct de 17h à 18h pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Notre invité du jour, Christophe Assens, qui est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres ». Vous l'avez compris, il s'agira de savoir comment les réseaux sociaux impactent notre quotidien, notre rapport aux autres, notre perception du réel ou encore notre façon de consommer. Dans Marmite fait son actu, Gaëlle nous parlera de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, de Trappe. Et dans sa chronique « Consommation responsable », Chloé nous fera un éloge de la lenteur. Le point sur l'actu local, c'est aux alentours de 17h15 avec un focus sur les municipales de Trappe et le lancement de campagne d'Ali Rabé. Allez, on ne change pas d'habitude, on commence cette émission en musique. On revient juste après pour parler cinéma avec Gaëlle.
J'ai débuté dans la dèche, dans ma brush à l'arrache. Faut que tu saches, bâche à l'arrache, la gouache et pas de cash. Je voulais de la fraîche, écrire ma colère. La misère me dans la perche, la galère, fuis mon échec scolaire. J'avais que dalle, ne me demande pas, héja. Ma tirelire crevait la dalle, t'es là où elle délébéja. Eh, sarbé, adolescent incompris. Où est passé mon bel esprit, la délinquance à tout prix. Là j'ai écrit, décrit mon mal de vivre sans recul. Écrivant le mot haine en majuscule. Ma sic fut le vecteur de mon art, mon moteur, mon modèle. Car elle est belle, douce ou rebelle. Elle me permet de chuchoter en criant, de caresser en cognant, de respirer en grognant, de sourire en pleurant. Elle est mon échappatoire, ma thérapie, l'espoir pour ne pas finir au tapis. Oui, ils ont pris notre musique pour un trip, nous prenant pour des mecs à problème. Men, dites-leur qu'elle sort de nos tripes, qu'elle n'a rien de toxique, qu'elle est tout ce qu'on aime.
Ouais. C'est du soleil.
Hey,
oh, belle musique fédératrice, porteuse d'espoir.
C'est là que t'as joué la faute. Tous ou rebelles.
Ma musique est populaire, mon frère.
Ma musique c'est du soleil. Sarpé.
Depuis tout gosse, musique rebelle dans le poste.
Faut qu'elle résonne. Mon moteur, mon modèle, car elle est belle. Tous ou rebelles.
95, banlieue nord, début des années 90. Premier lyrics, premier tag, premier contact, premier kiff. Prenez garde, petit hacket, force ses griffes. Depuis tout gosse, musique rebelle dans le poste. Bob, joue le shérif, boy, toujours actif. Ma musique est militante, dissidente, viens par ici, rentre dans le délire, chante. Ta douleur communique, là. Ma zik dérange, elle déclenche la polémique, là. Que je défends est unique, large, sans limite, beaucoup imite, mais nique. Leur musique sonne fâche, la mienne est fâchée. Rebelle musique prohibée, trop typée, trop d'idées qui les font trop flipper. Les miens ont trop les nerfs, dehors c'est trop miné. Le combat n'est pas terminé, musique de prolétaire. Allez leur dire que je suis pas le beurre qu'ils vont tartiner. Pas près de me taire, même si l'ascenseur nous guette. Dis-leur qui se gratte, nous demande pas si on regrette ce qu'on dit dans nos textes. Car c'est juste l'effet qu'on relate et quand ça monte plus haut. Rebelle musique se fait traîner devant les tribunaux, coupable de chanter la vérité. Mais ma musique est populaire, mon frère. Issu du peuple, pour le peuple, ma sœur. Hommage à nos pères, à nos mères, à notre histoire. Elle porte des cicatrices. Rebelle musique fédératrice, porteuse d'espoir.
C'est du soleil. Rebelle musique fédératrice, porteuse d'espoir.
C'est là que t'as joué la faute. Tous ou rebelles.
Ma musique est populaire, mon frère.
Ma musique c'est du soleil.
Musique rebelle dans le poste.
Faut qu'elle résonne. Mon moteur, mon modèle, car elle est belle. Tous ou rebelle.
Passion ni un hobby mais une mission que je me dois d'accomplir. Hey, chanter la paix, l'amour, l'unité, donner la positive vibration. Je le ferai tant que je respire. Ma musique reflète ma vie et mon état d'esprit. Vous pourrez enfermer mon corps mais pas mes mélodies. Elle peut être une insulte ou une poésie. Une caresse sur la peau comme un coup de fusil. Oui, elle est rebelle mais elle te parle si tu l'écoutes. Elle se fait vieille mais elle tient encore la route. Tu l'aimes, tu la détestes ou tu la redoutes. Mais elle n'a pas fini de te surprendre, ça y'a aucun doute. Ma zik c'est du soleil. C'est un rayon de vibes qui vient chauffer les cœurs. Man ouvre les oreilles. Laisse-la faire son travail, qu'elle t'emmène dans les hauteurs. C'est là que t'as joué la faute. Faut qu'elle
résonne. De Jamania à Madinina, de Guada à Kingston. Elle fera son travail pour combattre Babylone. Qu'a face et griffe cette union.
Vas-y, c'est du soleil.
Belle musique fédératrice, porteuse d'espoir.
C'est là que t'as joué la faute. Tout sous rebelle.
La musique est populaire, mon frère.
Vas-y, c'est du soleil.
Musique rebelle dans le poste.
Faut qu'elle résonne. Mon moteur, mon modèle, car elle est belle. Tout sous rebelle. Belle.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, on parle cinéma.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Bonjour Gaël.
Bonjour Noradine.
Comme chaque semaine, tu nous présentes l'actualité et puis les films à l'affiche du cinéma Le Grenier à sel. Alors la semaine dernière, on t'avait quitté un peu dépité puisque un diffuseur, c'est pas un diffuseur, c'est un...
Un projecteur.
Alors, ton projecteur numérique était en panne. Alors que comment ça s'est réparé tout ça ?
Eh bien, ça s'est réparé le jeudi matin. Nous avons changé des pièces et le projecteur était opérationnel dès le jeudi midi. C'était en place, c'était réglé. Bon, ça nous a fait manquer le mardi soir et le mercredi toute la journée. Et comme je disais, c'était dommage parce que comme c'était le démarrage du festival Télérama, il y avait la soirée d'ouverture avec une retransmission en direct d'un débat avec Anaïs de Moustier pour le film Alice et le maire. Et manque de bol, on n'a pas pu le faire. Mais c'est pas grave puisqu'on a eu d'autres événements dans le cadre du festival Télérama. Donc déjà tous les films de la reprise, mais ouais. Aussi une avant-première le vendredi soir et un quiz le samedi soir. Alors les résultats du festival, je ne les connais pas au niveau national, hein, parce que ça s'est arrêté hier soir. Mmh. Mais je sais que chez nous, c'était plutôt bien, ça a plutôt bien marché. Et ça va t'étonner peut-être, hein, ou peut-être pas, mais dans le film qui a le mieux marché chez nous, dans le cadre de ces reprises, c'était le film Parasite.
Comme c'est étonnant.
Voilà, donc tu as dû venir plein de fois le revoir, parce que je sais que tu aimes beaucoup ces films-là.
Ouais.
C'est toi qui as fait toutes les entrées chez nous.
Hein. Ouais, c'est un super film.
Je te remercie. Voilà, donc il a très très bien remarché. Il avait déjà bien marché quand on l'avait pris, repris. Et là, on le reprend encore une fois. Donc je suis très content. C'est bien que les spectateurs m'ont dit. Bah, j'aurais peut-être dû le revoir aussi parce que c'était très agréable. Voilà, donc ça, c'est réglé. On a réparé notre projecteur. Il fonctionne très bien. Demain matin, nous avons une commission de sécurité donc qui va nous... qui vient vérifier que notre... C'est pas lié à la panne, hein. Mm-hmm. Mais c'était déjà daté, on a une commission de sécurité qui vient vérifier que notre équipement est bien dans les règles, donc c'est pour rassurer tout le monde, tout fonctionne, tout va bien.
Ok, super. Du coup, on peut venir voir quel film ?
Eh ben, du coup, on va pouvoir venir voir un film qui s'appelle Le Lac aux Oies Sauvages, qui est un film chinois qui était déjà dans le cadre du festival Télérama, mais que l'on a gardé parce que il vient de sortir et on ne l'avait pas encore passé. Mmh. C'est un thriller. Le réalisateur avait déjà fait des choses époustouflantes. Il était en compétition à Cannes, ce film-là, le lac aux oies sauvages. C'est très esthétique, c'est très beau, c'est bien de s'immerger dans une... Dans un pays qui est impressionnant pour nous aujourd'hui, qui est très vivant. Je vous conseille vraiment de découvrir ça. Donc, ça s'appelle, je le redis, Le Lac aux Oies Sauvages. Nous avons aussi des films français. Nous avons notamment Play, qui est une comédie française avec Alix Izaz, avec Max Boublil. L'histoire est assez drôle. Elle commence en 1993. Où le jeune Max, qui a 13 ans, se voit offrir son premier caméscope. Et à partir de 93, il n'arrête pas de filmer. Et il filme ses potes, il filme ses amours, ses échecs, ses succès. Et donc, il filme tout des années 90 aux années 2010. Et ce qu'on voit là, c'est donc le portrait de toute une génération. Et c'est assez... c'est une bonne comédie. Ça fonctionne vraiment très bien. Et les acteurs sont au top pour tout ce voyage dans le temps des années 90 aux années 2010. L'autre film français de la semaine s'appelle Les Étaux avec Noémie Schmitt et Clovis Cornillac. comme son titre l'indique, on va suivre le destin des vétérinaires. Ça se passe au cœur du Morvan, dans une campagne bien profonde, où un vétérinaire part à la retraite et il laisse son associé seul. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la relève. Et il fait venir sa nièce, donc Alexandra. Elle est toute diplômée, depuis 24 heures diplômée de... et elle vient donc aider le vétérinaire local, mais elle pensait que c'était juste venir filer un coup de main, comme ça. Finalement, ils veulent essayer de la faire rester. Elle n'a pas trop envie, mais on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va s'attacher à ce village et à ce métier? On découvrira ça dans Les Vétos. Et nous avons un quatrième film. Un film, c'est aussi un film chinois d'ailleurs. Le hasard fait bien les choses. Entre Le Lac aux Oies Sauvages, on a aussi L'Adieu. Un très très beau film, très très doux, très tendre. Une grand-mère est atteinte d'une maladie incurable et ses proches se regroupent autour d'elle à l'occasion d'un mariage, et une partie de la famille décide de lui cacher la vérité, de pas lui annoncer qu'elle a une maladie incurable. Par contre, l'autre partie de la famille, qui habite aux États-Unis, qui a été élevée aux États-Unis, ne comprend pas ce mensonge et a du mal à respecter ce mensonge, en fait, de pas annoncer la maladie de la grand-mère. Et on a tous ces liens familiaux qui se créent, et c'est très très beau, c'est très tendre, et c'est assez très agréable de voir ça. Donc cette semaine au Grenier à sel, on vous emmène en Chine et en France. Voilà.
Bah écoute, merci Gaël pour cette présentation. Et puis on peut retrouver tous les films avec les pitchs détaillés sur le site cinemagreniersel.com.
Oui, et ce que j'ai pas réussi à faire à la radio, c'est-à-dire vous montrer les images, vous pourrez les voir aussi sur notre site internet, effectivement. Vous pourrez réserver des places, et je vous annonce que début février, le 8 février, nous aurons une soirée Japanimation avec deux films d'animation, et il y a un tarif très attractif à 6 € pour les deux films, et ça, vous pouvez déjà vous prendre vos places aussi sur notre site internet cinemagreniersel.com.
Super, merci Gaël, à la semaine prochaine.
Merci. À la semaine prochaine, au revoir tout le monde.
Merci Gaël, et tout de suite, le Flash Actu. Vendredi dernier, Ali Rabé a lancé sa campagne pour les municipales de la ville de Trappes. 200 personnes étaient présentes à la maison des familles pour soutenir leurs candidats. Parmi eux, l'ancien ministre Benoît Hamon. L'ancien candidat à la présidentielle de 2017, retiré de la vie politique, s'est longuement exprimé devant le public. Il nous explique les raisons de son soutien.
Bon, d'abord, il fait ce qui, pour ceux qui ont assisté à la réunion, ils auront été probablement très très impressionnés par le sérieux et l'incroyable densité du programme qu'il a mis sur la table. C'est-à-dire que il s'improvise pas candidat à l'élection municipale. D'abord, il y a un travail incroyable sur les questions éducatives, sur les questions de transport, sur les questions écolo, où ils ont réfléchi aussi aux questions de santé, sur la tranquillité. C'est assez incroyable de voir la qualité de ce travail-là. Et donc, il n'est pas candidat par hasard. Alors, la vraie différence, c'est qu'Ali Rabé, il ne maquille rien. Il n'est pas un candidat de droite qui fait semblant de ne pas être de droite, et je pense évidemment à Othmane Nasrou, qui évidemment lui n'a rien à dire sur le collège Courbet, alors que le département veut supprimer un collège au mépris de l'intérêt des collégiens, parce que s'il n'y a plus que deux collèges demain, à Trappes, Gagarine et Village, ça voudra dire qu'on fera deux usines, et que plus il y a de monde dans un collège, plus on sait que les résultats sont moins bons, surtout pour les élèves en difficulté qui du coup décrochent et tirent l'ensemble du collège vers le bas. Donc c'est une aberration. Et savoir que la mairie, à travers Jeannine Marie, l'adjointe à l'éducation, a accepté en conseil municipal que le collège Courbet soit sacrifié, au moins les choses étaient claires ce soir. Si on veut qu'il y ait toujours trois collèges à Trappes, il n'y a qu'une seule liste qui défend ça, et c'est la liste conduite par Ali Rabé. Sachant que par ailleurs, si le maire de Trappes demain dit non, ce qui sera le cas d'Ali Rabé, il n'y aura pas de suppression de collège Courbet. Donc lui, il ne dissimule rien. Il ne dissimule pas non plus le fait que, comme nous le savons aujourd'hui, si Guy Malandin, les Trappistes lui faisaient à nouveau confiance, il lâcherait le mandat en faveur de Jeannine Marie. Donc c'est quand même curieux d'aller aux élections et en fait de ne pas présenter celle qui va être élue maire derrière. C'est comme s'il y avait une photo d'un candidat, mais qu'en fait on un tête de liste, mais qu'en réalité derrière il y ait une sorte de maire caché. Donc voilà, je trouve moi qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème entre les politiques et les élus, et les citoyens, et pas faire preuve d'honnêteté, de transparence, dissimuler des éléments d'une élection. Voilà, Ali Rabé, lui, dissimule rien. Et surtout, la meilleure preuve qu'il prend cette élection au sérieux, c'est qu'il a un programme. Parce que c'est quand même insupportable d'avoir des candidats qui, pour tout programme, ont des déclarations qui sont tellement généralistes que tout le monde pourrait être d'accord avec. Voilà, c'est prendre des risques d'avoir un programme, parce que c'est prendre le risque d'être en désaccord avec les habitants, mais c'est aussi les prendre au sérieux. Et je trouve que ça, en l'occurrence, le candidat qui est le seul, par ailleurs, à habiter Trappes, c'est quand même pas rien. On parle d'une élection municipale et pas autre chose. Je trouve, moi, c'est sa première grande campagne sur son nom, avec une grosse équipe derrière lui, qu'il inspire confiance, il est respectueux des citoyens et ça fait beaucoup de qualité. Et c'est assez simple. Moi, je pense que si les Trappistes veulent reprendre le pouvoir, il faut voter Ali Rabé.
À l'issue de la réunion publique, Ali Rabé, qui a reçu le soutien officiel d'Europe Écologie Les Verts, affichait son enthousiasme pour la suite de la campagne.
Bien, c'était incroyable en termes d'énergie. On était plus de 200 là, on m'a envoyé le compte. Malheureusement, beaucoup de gens debout parce que la salle n'est pas assez grande et qu'on n'a pas assez de chaises. Mais une énergie folle. On voit là que les talents regorgent de créativité, d'envie de faire, de s'impliquer. Énormément d'associatifs. J'ai reconnu beaucoup, beaucoup de visages qui s'impliquent à Trappes depuis des décennies pour certains. Et qui ont envie que ça bouge, qui ont envie que ça change, qui ont envie que Trappes soit ce qu'elle a toujours été, une ville de gauche créative, inventive, solidaire, qui laisse personne sur le chemin et sur le bas-côté. Et cette énergie, elle me donne une responsabilité immense d'être à la hauteur déjà, de constituer une équipe qui soit capable de tirer le meilleur des trappistes. Moi, je n'aurai une équipe qui sera composée de 100% de trappistes. Je n'imagine pas, j'habite à Trappes, je suis le seul candidat qui habite à Trappes, je n'imagine pas de dire aux trappistes d'élire des gens qui n'habitent pas à Trappes. Et donc nous serons des bénévoles associatifs, des élus sortants, des professionnels, des enseignants, des ingénieurs. Il y aura de tout, des artisans, des ouvriers qui constitueront cette équipe. On va à la rencontre des trappistes depuis 3 mois déjà. On a fait le programme avec eux. C'est ce qui fait la richesse de ce programme. Ce ne sont pas mes idées. Ce ne sont pas les idées d'Ali Rabé ni des mouvements politiques qui le soutiennent. Ce sont les idées des trappistes qui, pendant 4 ateliers citoyens, de nombreuses réunions, ont imaginé rêver Trappes ensemble, poser des constats et qui vont continuer à travailler ensemble, non seulement pendant la campagne jusqu'au 15 mars, jusqu'à notre élection, mais qui continueront à travailler. Je l'ai dit en introduction, ce ne seront pas 39 élus municipaux qui vont faire l'avenir de Trappes. Ce seront les centaines de personnes qui déjà la font vivre et qui demain pourront prendre le pouvoir. Les portes de la mairie s'ouvriront pour que les trappistes s'investissent, s'engagent, investissent tout simplement ce qu'on appelle la maison du peuple, la mairie. Et cette énergie débordante, moi, elle m'envahit par moments, mais elle me donne vraiment une force considérable pour aller jusqu'à la victoire.
Le candidat a donc présenté son programme de 60 propositions, allant de la durée des rythmes scolaires au renforcement de la police municipale, en passant par la mise en place de jardins partagés. Il a également insisté sur une problématique récurrente chez les trappistes, la relation locataire-bailleur.
Une ville qui sera, et là je vais prendre le temps, aux côtés des locataires pour faire respecter leurs droits. C'est l'un des sujets majeurs à Trappes, où nous vivons aujourd'hui des formes d'injustice insupportables. Insupportables. Franchement, 70% des sollicitations dont moi je suis l'objet ont un rapport direct avec la relation entre les locataires et les bailleurs de cette ville. Plus de 60% des habitants vivent en HLM et sont logés par des bailleurs sociaux. Il y a des gens formidables chez les bailleurs sociaux. J'en connais au moins 2 dans la salle. Qui prennent leurs responsabilités, qui sont aux côtés des habitants, qui répondent aux sollicitations, qui sont actifs auprès des habitants. Mais il y a aussi parfois des comportements plus scrupuleux de la part des bailleurs, qui s'intéressent souvent peu à la ville et à ses habitants, et qui, quand ils ne sentent pas que la municipalité est aux côtés des habitants, se permettent de leur manquer de respect, et parfois même de les racketter, j'y reviens après, illégalement et en toute impunité. Si la ville est aux côtés des habitants, les bailleurs devront changer radicalement de relation avec les habitants de la ville. Pour cela, il faudra soutenir et renforcer les amicales de locataires. La ville proposera des subventions aux habitants qui souhaitent développer leurs amicales de locataires et démarrer leur activité. Elle leur permettra d'accéder à des conseils juridiques pour savoir comment faire valoir leurs droits. Et elle organisera, en lien avec les amicales, c'est un objectif ambitieux qu'on s'est fixé avec l'équipe, un contrôle annuel des charges systématique dans tous les quartiers d'habitat social de Trappes. À Marseille, récemment, une amicale de locataires a fait condamner un bailleur pour plus d'un million d'euros, de charges perçues indûment, illégalement. Donc c'est très compliqué de vérifier ces charges, de faire le calcul. Il faut respecter une procédure légale dans le temps qui est courte. Il faut être capable de lire des documents juridiques, des factures, des cahiers des charges, des appels d'offres. Si on n'a pas un juriste spécialisé, on ne peut pas s'en sortir. Eh bien, nous ferons avec les amicales de locataires et le juriste de la municipalité de Trappes un contrôle systématique à la place des habitants. Et quand nous constaterons des abus dans la perception des charges, nous irons négocier avec les bailleurs et s'il le faut au tribunal pour obtenir les remboursements nécessaires auprès des locataires.
Voilà donc pour le lancement de campagne du candidat Ali Rabé pour les municipales de Trappes. Nous recevrons la semaine prochaine un représentant du Parti communiste français de Trappes et je serai également au lancement de campagne d'Otman Nasrou. C'est le 31 janvier prochain, salle Jean-Baptiste Clément, pour partager avec vous donc cette passionnante campagne des municipales de la ville de Trappes. Allez, pour changer un petit peu de sujet, je vais maintenant donner la parole à Chloé dans sa chronique consommation responsable. Elle nous fait un éloge, celui de la lenteur.
Marmite FM présente la chronique consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée d'hiver. Même si je vous en ai déjà parlé, aujourd'hui je vous propose de réfléchir à votre rythme de vie et pourquoi pas de ralentir. Pourquoi ? Car c'est peut-être la clé du bonheur. Ralentir, c'est le concept de la slow life apparu à la fin des années 80 pour nous inciter à ralentir nos vies. Du verbe to slow, ralentir, et life pour vie. La slow life répond aux besoins essentiels du bonheur, souvent oubliés dans nos sociétés rythmées par l'égalité qui nous dit que rapidité égale réussite. Alors pourquoi ralentir ? Est-ce applicable tout le temps ? Ralentir devient presque une nécessité pour éviter le piège du burn-out. En fait, depuis un demi-siècle, la mondialisation, les progrès technologiques, la circulation de l'information, etc., etc., s'accélèrent de plus en plus rapidement. Être rapide n'est plus un choix, mais c'est devenu un but. L'injonction qui rythme nos vies est devenue vite fait, bien fait, mais surtout vite. Face aux journées toujours plus chargées, aux tâches qui s'accumulent, le concept de la slow life s'est développé pour sortir de l'impasse du toujours plus stressante, malsaine, polluante, qui nous éloigne du bonheur et parfois nous conduit au burn-out. Comment prendre son temps et être heureux à la fois ? La slow life consiste donc à ralentir son rythme de vie pour profiter du bonheur qui réside dans l'art et la manière de vivre l'instant présent en pleine conscience et dans le sens profond donné à cet instant. Ralentir permet de redevenir l'acteur principal du rythme de son quotidien et de ses loisirs, selon une attitude de lâcher prise. Un meilleur bien-être psychologique et physique, respectueux de l'environnement et bienveillant pour soi-même et les autres, voici le challenge de la slow life. Mais d'où ça vient tout ça ? Eh bien, tout a commencé avec le concept de slow food, food nourriture, engagé par Carlos Petrini contre l'installation d'un fast-food à Rome. Ce sociologue et critique gastronomique italien a choisi d'encourager une cuisine traditionnelle saine, élaborée à partir de produits régionaux et favorisant la biodiversité. Cette philosophie de la qualité plutôt que de la quantité a déteint sur tous les aspects de nos vies réunies dans celui de Slow Life. La slow life, c'est donc la vie calme et tranquille où la lenteur n'est pas un défaut. Oui, vous avez bien entendu. Mais bien une façon d'avancer pour profiter et être en harmonie avec soi. Mais comment faire, me direz-vous ? Pas évident en effet dans le monde où l'on vit. Il faut commencer par s'écouter et réfléchir à ses envies. Il faut observer son environnement et identifier ses besoins profonds. En effet, on ne passe pas à la slow life en claquant des doigts. Il s'agit d'une philosophie que l'on installe petit à petit dans sa vie en prenant régulièrement le temps de se demander ce qui nous est essentiel. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Quel est le plus important pour moi ? Est-ce vraiment utile? Qu'est-ce qui rendrait ma vie meilleure? Plutôt que de s'imposer une liste de choses à faire surchargées, l'idée est de s'écouter, prendre du temps pour soi et se concentrer sur une seule chose à la fois. Tout un programme, me direz-vous. Et pour cela, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est déconnecter. Les écrans, les réseaux sociaux, l'information en continu envahissent notre quotidien et y prennent une place importante, souvent trop importante. Or, pour laisser place au bonheur, tous les livres de développement personnel sont unanimes sur cette question. Déconnectez-vous quelques minutes, voire quelques heures, si c'est possible, par jour de vos appareils électroniques. Ce geste simple vous libérera du temps pour respirer, prendre des nouvelles d'un ami ou profiter du chant d'un oiseau tout bêtement. Et ne vous laissez pas envahir par un sentiment de culpabilité lorsque vous n'êtes pas occupé à une tâche dite utile ou productive. Au contraire, ralentir sa vie permet d'avoir les idées plus claires et d'avancer plus efficacement dans la réalisation de ses objectifs. Je vous donne maintenant quelques exemples pour démarrer. Tout d'abord, réduire sa liste du jour à 2 ou 3 tâches essentielles. Cuisiner d'avance pour plusieurs repas. Plier ses vêtements aussitôt séchés pour éviter de les repasser. Prendre le vélo ou les transports en commun dès que possible. Méditer ou marcher en pleine conscience, c'est essentiel pour arriver à ralentir. Il faut bien comprendre que ralentir, c'est se réapproprier sa vie. Cela demande de transformer ses habitudes, bien sûr, mais cela ne doit pas être source de stress, bien au contraire. C'est pourquoi il n'existe aucune recette miraculeuse pour appliquer la slow life à son quotidien. Chacun, à sa manière, peut s'adapter à un rythme plus lent et non s'imposer des idées toutes faites. D'abord, comme je vous ai dit, observer son environnement et ses habitudes permet de mettre en place des raccourcis simples, comme je vous l'ai dit. Puis, être honnête avec soi-même sur ses besoins, ses envies, ses ambitions, pour y répondre sans s'éparpiller. Cela permet de nous recentrer sur l'essentiel et donc sur ce qui nous rend le plus heureux. Ralentir offre une paix intérieure bénéfique à nos proches et à la nature qui nous entoure. Le concept s'oppose bien évidemment au rythme effréné de nos sociétés modernes, mais il est pourtant essentiel à l'heure où les alertes rouges résonnent partout pour nous signifier qu'une croissance infinie n'est plus possible et qu'une transition sociétale est nécessaire. Ralentir fait en effet partie des concepts qui construisent le monde durable de demain. Manger local, faire soi-même, cultiver son potager, méditer, tant d'activités pour se recentrer sur soi et l'essentiel. Je vous donne enfin 2 livres à lire pour aller plus loin si vous le souhaitez. Moins, mais mieux, vers une vie plus qualitative, de Stéphanie Assant, Éloge de la lenteur, et Si vous ralentissiez, de Karl Honoré. Voilà, après tout ça, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en compagnie de Marmite FM. Faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous et à la semaine prochaine.
Merci Chloé, qu'on le retrouve la semaine prochaine. On marque une seconde pause musicale dans Marmite fait son actu et on revient juste après avec notre invité pour parler réseaux sociaux.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te
écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, l'invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Christophe Assens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de gestion et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous avez de nombreuses autres fonctions hein, que l'on ne va pas détailler ici, mais je renvoie les auditeurs à votre site internet christophe-assens.fr pour de plus amples informations sur votre riche parcours. Il y a également des articles, il y a plein de choses à découvrir sur votre site internet. Vous êtes auteur du livre « Réseaux sociaux tous égaux, libres ou otages du regard des autres » aux éditions Debuc en 2016. Vous y traitez notamment, alors j'essaie de résumer, hein, des conséquences peut-être de l'omniprésence des réseaux sociaux dans les institutions, dans l'économie, dans l'éducation, et du coup de ses conséquences sur notre société. Alors d'abord, Christophe Assens, j'aimerais que l'on débute cet entretien avec des définitions, pour être sûr qu'avec nos auditeurs, nos auditrices, nous comprenions les mêmes choses. Pourriez-vous nous définir ce qu'est un réseau social, pour commencer ?
Oui, alors c'est une excellente question d'entrer en matière parce que tout le monde a une vision un peu particulière de ce qu'est un réseau social. Je crois qu'il faut considérer au départ qu'un réseau social, au sens où on l'entend dans l'opinion publique, c'est toutes ces plateformes collaboratives qu'on utilise pour la communication, pour la socialisation sur Internet. Donc, en fait, on devrait plutôt parler de médias sociaux. C'est-à-dire que la nouveauté avec Internet, c'est qu'on peut mélanger à la fois le son, l'image, le texte, et qu'on peut avoir l'interactivité dans la production et dans la réception de messages. Et donc, on a un média interactif social qui s'appelle aujourd'hui le réseau social. Mais le réseau social, c'est un abus de langage. En fait, c'est un réseau de communication destiné à la socialisation et à l'information qui challenge en fait les médias traditionnels.
Voilà, donc il n'est pas né, comme on l'entend très souvent, avec les réseaux sociaux et avec Internet, justement. Il faut faire cette distinction, en tout
oui,
cas.
Oui, c'est...
Le réseau social est beaucoup plus ancien, donc, que le...
Alors, oui, alors, oui, alors, effectivement, moi, j'ai tendance à considérer qu'un réseau social, c'est un réseau humain. C'est-à-dire qu'un réseau fondé sur le lien social entre êtres humains. Et donc, c'est pas forcément lié à la communication, c'est lié à la confiance. Pour moi, ce qui fonde un réseau social, avant tout, c'est la confiance. Je donne un exemple dont je parle souvent auprès des étudiants, c'est l'économie du troc. Moyen-Âge, quand il n'y a pas d'unité de monnaie, unité de valeur, les marchands vont échanger des biens. Et qu'est-ce qui fait la valeur du bien ? C'est la confiance mutuelle qui se témoigne. Et là, on est dans un réseau social, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire confiance à l'autre pour collaborer et avancer dans un projet commun. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dans un réseau sur Internet, de communication, que je qualifierais plutôt de média social. Mais bon, peut-être pour pas compliquer vis-à-vis des auditeurs, on peut continuer d'utiliser ce terme consacré de réseau social pour parler des réseaux de communication sur Internet. Mais en ayant à l'esprit qu'on se place sur un plan de communication et pas nécessairement sur le plan de la confiance, de la collaboration, de la solidarité, comme on peut l'imaginer dans une relation face à face.
On y reviendra justement au long de l'entretien. Alors Christophe Assens, le monde n'a jamais été aussi connecté. Il est désormais possible, via de multiples réseaux sociaux, d'échanger, de communiquer, de partager, aussi bien avec son voisin de palier qu'avec une personne, je ne sais pas, dans le sud de la France, ou même plus loin pour les polyglottes, avec une Sénégalaise, une Chinoise ou encore un Norvégien. Mais si l'on en croit les dernières études, les gens sont de plus en plus seuls ou isolés. Alors comment on explique ce paradoxe ? Ce sont de faux liens que créent les réseaux sociaux ?
Ce sont pas forcément des faux liens, mais c'est la construction de la vie sociale, elle peut pas se résumer à Internet et aux écrans qu'on utilise, à mon sens. Je crois que avant, quand on regardait la construction de la société, au Moyen-Âge ou plus récemment, on avait plutôt une construction société de village. C'est-à-dire qu'on entretenait des relations de voisinage avec des gens à proximité. Donc il y avait construction d'une culture, d'une identité locale. Avec la mondialisation, on parle de village mondial. Ouais. C'est-à-dire que les technologies permettent de discuter, d'échanger avec tout le monde à distance. Mais ce qui est un peu paradoxal, me semble-t-il, c'est que quand on regarde plus précisément avec qui on échange, on échange avec des gens du même village, quelque part, la même identité, la même valeur, à distance. Donc, Internet n'a pas bousculé ça. Ça n'a pas créé beaucoup plus, ça n'a pas ouvert les horizons sociaux des gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a donné la possibilité de communiquer à distance. Les gens sont toujours enfermés un peu sur leur identité, sur leur ego, de ce point de vue-là. Et deuxièmement, sur Internet, on cultive beaucoup de liens faibles, avec des anonymes aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est le lien faible ?
Alors, le lien faible, c'est le sociologue américain Mark Granovetter qui l'a défini. C'est-à-dire un lien qui peut être de nature distanciée, éphémère, qui n'a pas de portée affective. Mmh. Et donc, ce sont les relations qu'on entretient avec des anonymes. Et sur les plateformes collaboratives, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on veut avoir d'audience, de notoriété, de reconnaissance, un peu comme un youtubeur ou un influenceur, et plus on est obligé de cultiver des liens faibles, parce qu'on est d'une certaine manière victime du modèle d'affaires des écrans publicitaires. Donc il faut faire de l'audience. Et donc l'audience, ça veut dire qu'on entretient des liens quantitatifs et pas qualitatifs. À comparer avec les liens forts, ce sont les liens de proximité, affectifs, la famille, absolument, le lien du sang, le lien de confiance, de proximité avec des amis, qui fait que on va avoir bien entendu un nombre beaucoup plus restreint d'amis, mais avec des relations qualitatives qui seront beaucoup plus fortes.
Dans votre ouvrage, Christophe Assens, vous nous expliquez également, d'ailleurs c'est un mot qui apparaît dans le titre du livre, l'ego, que les réseaux sociaux sont censés développer le partage et la communication entre les personnes, mais c'est tout autre chose qui se développe dans la société actuelle, plutôt l'individualisme, le narcissisme et l'égocentrisme, dont un des éléments, c'est un exemple, mais un des éléments les plus flagrants, c'est le selfie. Alors, en quoi les réseaux sociaux développent-ils l'ego, justement ?
Alors, je crois que ça, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de se sentir exister. Et d'autant plus les jeunes générations qui sont en construction d'une identité sociale. Donc, bien évidemment, tout le monde a besoin de reconnaissance, et de tout temps.
Oui, c'est pas spécifique aux jeunes, vous voulez dire. Oui.
C'est pas spécifique aux jeunes, c'est spécifique. Tout le monde a besoin de se sentir utile dans la société, de se sentir reconnu, aujourd'hui comme hier, hier comme demain. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de considérer Internet un peu comme le nouveau miroir des vanités, c'est-à-dire qu'on se regarde dans un écran comme le nouveau miroir des vanités et on essaye de présenter une image idéalisée de soi pour satisfaire la reconnaissance sociale, l'empathie, l'adhésion à un groupe. Et bien évidemment, ça peut poser un problème parce que cette construction de l'identité sociale à travers Internet, la recherche de l'ego, elle est un petit peu artificielle parce qu'elle est conditionnée par les modèles d'affaires des plateformes collaboratives, parce qu'elle est conditionnée aussi par une image idéale de personnalité, parce qu'elle est conditionnée un petit peu par les codes de la publicité. C'est-à-dire que chacun développe sa marque personnelle un peu sous l'angle d'une marque publicitaire. Et on perd toute la richesse d'une personnalité, ses imperfections, ses défauts, ses spécificités, sa singularité. Donc on perd aussi la singularité. Et donc je crois que c'est ça qui peut-être est étonnant aujourd'hui à notre époque, c'est que on va chercher sur Internet une reconnaissance dont on a éperdument besoin. Et ça, c'est naturel, mais on le fait de manière artificielle parce qu'on n'apporte pas de vraies réponses à la construction d'identité quand on se regarde dans un miroir. Aussi technologique soit-il, aussi étendu soit-il, un écran informatique demeure un miroir. Et la construction de l'identité, elle doit aussi reposer sur des relations en face à face, sur la confrontation d'idées, sur des relations sociales dans un cadre professionnel, familial, amical, qui ne peut pas se résumer à l'utilisation d'un clavier, d'un smartphone ou d'un ordinateur. Donc je crois que c'est, cette problématique que l'on rencontre aujourd'hui. La société est difficile et pour la réussite sociale, c'est compliqué. Et le réflexe qu'on peut avoir, c'est que moins on est reconnu socialement dans la société et plus on va aller chercher sur Internet ce déficit de reconnaissance qui manque. Et plus, paradoxalement, on risque de se retrouver seul face à son écran, parce que sur Internet, on diffuse des images idéalisées qui ne correspondent pas à la véritable personnalité et qui ne permettent pas de nouer des liens forts tels qu'on pourrait l'imaginer dans le cadre familial ou amical.
Vous dites notamment que, page 51 de votre ouvrage, que ça oui. crée de nouvelles distances sociales plutôt que d'en créer.
Oui, parce que on va voir se produire des bulles de narcissisme collectif, des bulles d'individualisme collectif, c'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, les pages Facebook, les groupes d'amis, cultivent beaucoup d'entre-soi. Et donc, le problème, c'est que à force de cultiver l'entre-soi à partir de son écran de téléphone, on ne se donne plus la peine de découvrir autre chose et de regarder des gens différents, de discuter sur des débats où on n'est pas forcément d'accord. Et donc c'est plus confortable, bien évidemment, de rester dans un groupe d'amis confortablement à distance en plus sur son écran de téléphone, en se disant de toute manière j'ai raison puisque les autres me donnent raison et que moi-même je leur donne raison. Donc on a un petit peu cette tendance un peu paresseuse à rester dans ces points de repère, à projeter ces points de repère sur Internet et à accentuer le phénomène peut-être de clivage et de distance sociale qui peut exister entre un groupe et un autre. Et c'est peut-être un des phénomènes paradoxaux et inquiétants d'Internet. C'est-à-dire que au lieu d'aller retrouver un élan de liberté et de solidarité nouveau, on recrée des formes de chapelle ou de féodalité qui n'existaient pas avant.
Encouragé d'ailleurs par les réseaux sociaux, hein. J'ai en mémoire un reportage récent sur France 2, me semble-t-il, où était très bien expliqué comment Facebook, justement par les algorithmes, confortait des personnes dans leurs idées préconçues ou dans leur oui. des jugements qu'ils avaient déjà oui. sur certains faits de société en remettant oui. les mêmes vidéos de oui. mêmes personnes ou en tout cas sur voilà.
Oui, ça c'est un aspect important effectivement de l'explication. Oui. C'est-à-dire quand on regarde un peu les techniques marketing. Oui. Le marketing donc pour vendre des produits à partir de la publicité. Ça consiste à segmenter la population, donc à classer les gens en fonction de leur mode de consommation, de leur style de vie. Et ça, Facebook peut tout à fait le découvrir à partir des bases de données sur les échanges. Et donc, renforcer cette segmentation et ce ciblage, effectivement, à partir des discussions, et donc entretenir le repli sur soi des groupes sociaux. Parce qu'il y a un intérêt, bien entendu, marketing, parce que ça permet de cibler de façon plus efficace les publicités. Ça permet d'avoir des croisements d'avis entre utilisateurs-consommateurs plus précis, plus pertinents sur le plan de la publicité et du marché. Mais bien évidemment, à force de faire cette segmentation et ce ciblage commercial, on empêche peut-être les utilisateurs de Facebook ou d'autres plateformes collaboratives d'ailleurs, de sortir un petit peu de la facilité et de découvrir l'étendue ou la diversité des choix de société ou des choix de consommation d'ailleurs.
Christophe Assens est notre invité dans Marmite fait son en actu, donc auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres ». Alors Christophe Assens, les réseaux sociaux, la question que j'aurais pu vous poser d'ailleurs, c'est comment on en sort de tout ça? Mais bon, ce serait peut-être pour la conclusion, question très ouverte. Alors les réseaux sociaux jouent également un rôle majeur en politique, car ils permettent de partager des idées. Certes, mais là encore, c'est un faux semblant, puisque vous nous dites que les réseaux sociaux développent l'entre-soi et confortent chaque individu dans ce qu'il croit déjà et dans ce dont il est convaincu. Est-ce qu'on pourrait aller même jusqu'à dire que les réseaux sociaux sont suffisamment puissants pour influencer, par exemple, une élection, comme ça a été dit pour l'élection aux États-Unis de Donald Trump, par exemple?
Oui, alors, c'est tout à fait juste. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par facilité et puis par effet générationnel, la plupart des gens vont collecter des informations avant de prendre une décision politique. Donc les citoyens avant une élection vont collecter ces informations sur Internet et à partir des réseaux sociaux. C'est un phénomène générationnel qui s'accentue. J'ai pas le sentiment que les jeunes générations écoutent nécessairement la radio, sauf Marmite FM, bien évidemment, ou regardent la télévision, ou lisent des journaux. Donc le moyen de s'informer, c'est les réseaux sociaux. Et donc à partir de là, il peut y avoir effectivement des dérives. C'est-à-dire que souvent dans les élections politiques, les dernières élections politiques, on voit des formes d'ingérence, c'est-à-dire de manipulation de l'opinion publique à partir de fake news ou de désinformation ou de contre-vérité. Un exemple que j'ai en tête, c'est le Brexit, la sortie d'Angleterre de l'Europe. Il s'avère que les fake news, durant cette période de choix électoral, de référendum, pour les Anglais, les fake news avaient autant d'audience, si ce n'est plus, que des vérités avérées, c'est-à-dire sur les conséquences de la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Europe. Et finalement, on s'aperçoit de plus en plus qu'au moment des élections, les citoyens préfèrent croire des contre-vérités, mais qui correspondent à leurs convictions ou à leurs a priori, que d'adhérer à des vérités qui peuvent être difficiles à entendre pour certains citoyens. Et donc, là, on sort d'une démocratie, où les débats proposent des choix de société clairs et transparents, vers une démocratie à la carte, où finalement, à partir des réseaux sociaux, les citoyens ont l'illusion de croire qu'ils peuvent bâtir la société à la carte qui leur ressemble le plus. Mmh. La démocratie, c'est l'expression d'une majorité. Donc forcément, il y a toujours des compromis à faire. Les réseaux sociaux ne font pas ces compromis. Ouais. Donc, donc effectivement, c'est un problème, je crois, aujourd'hui, sur le plan politique, comment on arrive à faire gagner en maturité l'expression de débat politique sur les réseaux sociaux. C'est pas simple.
Parce que quand on prend l'exemple de Donald Trump, par exemple, il maîtrise que beaucoup de médias français présentent un peu comme un idiot. Voilà. Mais je pense qu'il maîtrise parfaitement l'art, si on peut parler d'art, des réseaux sociaux, parce qu'il sait que notamment beaucoup de personnes vont peut-être avoir une attention de 30 secondes, d'une minute. Absolument. Il utilise des mots forts, il sait parler au côté émotionnel peut-être des personnes, donc c'est efficace.
Oui, alors voilà, il ne faut pas peut-être porter du jugement de valeur sur tel ou tel acteur politique en fonction des programmes. Si on reprend l'élection de Donald Trump, il a été élu sur la base d'une campagne qui était cohérente, construite de manière intelligente, quelles que soient les idées qu'on peut porter sur son programme. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme un candidat anti-système, donc contre tous les médias traditionnels. Donc il a utilisé les réseaux sociaux pour contourner la censure supposée des médias traditionnels. Et puis surtout, il a utilisé ce fameux ciblage commercial, marketing, publicitaire dont je parlais, c'est-à-dire qu'il a ciblé des électeurs indécis dans les États clés et il leur a délivré des messages via Facebook à des moments clés de la campagne pour faire basculer ces états indécis et des électeurs également indécis. Donc sur une petite minorité effectivement d'électeurs, il a réussi à retourner le résultat électoral au niveau des grands électeurs américains, et même si sur le plan du suffrage universel, il n'a pas la majorité de citoyens.
Il a moins de voix.
Voilà. Mais effectivement, il a utilisé très habilement, avec d'ailleurs, pas lui spécifiquement, mais son gendre, Jared Kushner, qu'il a aidé fortement à maîtriser les outils de communication digitale pour emporter les élections. Et j'irai même plus loin, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il n'est pas possible pour un acteur politique de gagner le pouvoir sans utiliser de manière intelligente les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça est devenu incontournable.
Barack Obama l'avait fait d'ailleurs dans sa campagne.
Alors, il l'avait fait pour une raison un petit peu différente. C'était pas le candidat anti-système. Il était porté par le Parti démocrate. C'était quelqu'un de brillant, talentueux, qui avait tout le parti derrière lui. Mais il voulait pas être tributaire du lobbying militaro-industriel pour le financement de la campagne. Et donc, il avait levé des fonds sur Internet par un appel aux dons, ce qu'on appellerait aujourd'hui du financement participatif. C'était très avant-gardiste à l'époque. Mais comme Donald Trump, il a également cultivé son image de marque politique sur les réseaux sociaux pour accompagner son élection. Alors pas sur Twitter, mais sur Facebook. Les outils technologiques changent en fonction de la mode ou de l'audience, mais la manière de faire de la politique, quelque part, entre Donald Trump et Barack Obama, était un peu similaire dans l'utilisation des réseaux sociaux pour dépasser, pour emporter une élection qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Donc je crois que c'est la leçon qu'on peut retirer, et surtout en ayant à l'esprit, en se disant que le marketing politique tel qu'on le voit aux États-Unis, bien évidemment, il est transposé en Europe, il est transposé dans le reste du monde quelques temps après.
Alors dans votre ouvrage, Christophe Assens, page 67, vous nous dites que ces réseaux sociaux peuvent représenter un baromètre en temps réel de l'opinion publique. Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils représentatifs de l'opinion publique, pardon ? Vous dites peut-être que c'est en temps réel, mais est-ce qu'on peut leur opposer, ou en tout cas leur faire la même critique que l'on fait, par exemple, au sondage ?
Alors,
est-ce que c'est une fausse opinion publique qui se crée sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'elle est vraiment représentative ?
Alors, c'est un vrai débat, très intéressant, et on peut dire une chose et son contraire sur le sujet. C'est-à-dire, on peut très bien dire, non, c'est pas représentatif, puisque il y a des tentatives d'influence, de désinformation, de manipulation de l'information. Mmh. Et d'ailleurs, dans les équipes de campagne politique, il y a toujours des spécialistes des réseaux sociaux pour alimenter alimenter des flux d'informations dans le sens du candidat, etc. Donc de ce point de vue, on peut se dire bon, les réseaux sociaux sont pas forcément le reflet de l'opinion publique. Néanmoins, si on regarde les sondages par quota, statistiquement, ils sont rarement représentatifs de l'opinion publique. Ouais. Pourquoi ? Parce que le seul moyen statistique, et je ne vais pas entrer dans des détails techniques qui n'intéressent pas nécessairement l'auditeur de Marmite FM, mais le seul moyen de généraliser l'opinion d'un échantillon sur la majorité de la population, c'est ce qu'on appelle le tirage aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder par une méthode d'échantillonnage par quota comme on le fait, avec tant de catégories de vieux, de jeunes, ouais, etc. Au contraire, on doit partir sur la base électorale. Je sais pas, 30 millions, 40 millions de personnes en France. Mmh. Et dire chaque personne a une chance sur 30 millions ou 40 millions d'être tiré au sort pour faire partie de la base d'échantillons. On le fait pas. À partir du moment où on le fait pas, on se rend compte qu'il y a, à ce moment-là, des instituts de sondage nouveaux qui vont recueillir sur Internet l'analyse des rumeurs, l'analyse du bruit numérique.
Des tendances.
Des tendances, et à partir de ça, extrapoler et parfois trouver des résultats plus proches de la réalité électorale que les sondages classiques. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire attention, et je crois que plus les années passent, plus le citoyen s'informe, dialogue sur le réseau social, et moins le média traditionnel devient une source d'information ou un reflet de l'opinion publique, me semble-t-il.
Alors pour parler peut-être, Christophe Assens, de manière plus positive, oui. Non pas qu'on en ait parlé de manière négative, mais des réseaux sociaux, vous donnez l'exemple de l'économie collaborative que ces réseaux sociaux permettent de mettre en œuvre. Alors ça peut être l'échange de maisons, du covoiturage, de la colocation, du bricolage. C'est plutôt positif selon vous, même si c'est très critiqué. C'est considéré comme de la concurrence déloyale. Par exemple, si on prend l'exemple des échanges de maisons, c'est critiqué par les hôtels qui considèrent ça comme de la concurrence déloyale. Voilà, c'est peut-être une fin programmée en quelque sorte de certains intermédiaires.
Oui, c'est-à-dire qu'avec Internet, on a deux phénomènes. C'est la dématérialisation, et on en a parlé, dématérialisation du lien social, et la désintermédiation. Alors, c'est pas tout à fait d'ailleurs une désintermédiation, parce que toute l'économie collaborative dont on parle, on s'aperçoit qu'elle est organisée par une plateforme. Mmh. Donc c'est une réintermédiation. Mmh. On a de nouveaux intermédiaires. Alors, ce qui change, à mon avis, c'est qu'on passe d'une logique de marché à une logique de réseau. Dans la création de valeur. C'est-à-dire qu'on considère que la collaboration entre particuliers, que l'échange, la collaboration, devient une source de création de valeur. Et ça, c'est effectivement très moderne. On ne reviendra pas en arrière. Il y a une distorsion de concurrence, il va falloir réglementer sur ce sujet, sur le plan juridique, fiscal. Mais de toute manière, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'aperçoit que, si on regarde à travers le monde, 95-97% des entreprises sont des toutes petites entreprises, des PME ou toutes petites entreprises, que l'entreprise individuelle, le fait que chacun s'érige en entrepreneur, ça devient de plus en plus une norme mondiale, que les outils digitaux permettent de le faire, c'est-à-dire que chacun peut effectivement devenir sa propre entreprise. Ce phénomène, il ne faut pas en avoir peur. Il faut au contraire considérer que ça peut avoir des vertus, notamment quand on pratique l'échange, le partage de biens d'occasion. D'une certaine manière, on évite peut-être d'accélérer les problèmes de transition énergétique, écologique. Et donc il peut y avoir aussi des vertus à cette économie collaborative. Effectivement, je crois qu'il faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont leur rôle dans la société, bien évidemment.
Vous dites qu'ils sont incontournables.
C'est incontournable. Internet, les outils informatiques, c'est le progrès. Maintenant, il faut le maîtriser, il faut le domestiquer. On ne peut pas être dépendant de manière aveugle de tous ces outils. On ne peut pas considérer que le téléphone va réfléchir à notre place. On ne peut pas considérer que l'ordinateur va être plus intelligent que l'homme. Ce n'est pas possible.
Alors, philosophons pour terminer peut-être cet entretien, Christophe Assens, sur une déclaration de Mark Zuckerberg sur la création de Facebook notamment, où il disait avoir créé Facebook notamment pour permettre au maximum de personnes de se rencontrer pour faire diminuer les extrêmes et notamment pour rendre les gens heureux. Alors il y a une phrase que j'ai bien aimée dans votre ouvrage, moi, c'est que vous dites, en parlant de cette libération, peut-être une sorte de libération comme en mai 68, vous dites que c'est un mai 68, oui, mais sponsorisé par Coca-Cola.
Oui, parce que on a l'impression, quand on va sur Internet, dans les réseaux sociaux, qu'on va retrouver un vent de liberté.
Qu'on peut tout dire.
Voilà, que tout est possible. Bon, que c'est le Far West, c'est la grande aventure. bon, au coin de la rue. Puis si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que la communication est codifiée, qu'il y a des modèles d'affaires très puissants derrière, notamment ceux de Facebook, mais pas que. Et donc il faut relativiser. On n'est pas en train de changer de modèle de société. On est toujours dans une société fondée sur le capitalisme de marché. Maintenant, cette société, elle évolue. C'est-à-dire que les gens aspirent à être de plus en plus acteurs de la société à tous les niveaux, sur plan social, politique, économique, et donc utilisent des réseaux, des formes de réseaux. Donc l'horizontalité prend de plus en plus d'importance dans la société. Et c'est plutôt quelque chose de positif, je crois, parce que ça responsabilise les gens. À ce moment-là, ils sont obligés de se prendre en main et puis de nouer des collaborations, ce qui peut être intéressant aussi. Mais il ne faut pas donner peut-être une portée trop philosophique à ce qui se passe. On n'a pas recréé pour autant une société plus vertueuse, plus formidable, plus idéale. Parfois même, on a peut-être recréer une société un peu sur la base de 1984 de George Orwell, c'est-à-dire une société où la surveillance mutuelle organisée à partir des outils,
ce qui est plutôt inquiétant,
crée une forme parfois de totalitarisme de la pensée. Donc attention, alors peut-être c'est là où on avait abordé ce sujet un peu dans le cours de l'entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour utiliser au mieux? Je crois qu'il faut les outils, il faut considérer, je dis toujours, c'est un peu comme un marteau. Avec un marteau, c'est un outil, on peut taper sur la tête de son voisin ou enfoncer un clou et bricoler. Donc l'outil, c'est l'utilisation qu'on va en faire qui est importante. C'est pas l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, il est ni bon ni mauvais. L'utilisation. Et pour faire une bonne utilisation des outils informatiques et d'Internet aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre le temps par moment de se déconnecter et de retrouver également des moments où on n'est pas soumis au diktat de la technologie ou du regard des autres, et donc où on peut prendre le temps de réfléchir sur soi, on peut prendre le temps aussi de la lecture, c'est-à-dire de retrouver la culture de l'écrit et pas uniquement la culture de l'image. Donc tous ces éléments, tous ces temps de pause dont nous avons besoin pour avoir une utilisation plus sereine des outils, je crois que c'est ça qui est important. C'est dans la modification des usages collectifs qu'on va trouver de la modération et qu'on va mettre à leur bonne place ces nouveaux outils de communication.
Merci Christophe Assin. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que vous êtes docteur en sciences de gestion et professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, entre autres choses, et que vous êtes l'auteur du livre « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres », paru aux éditions Debuc en 2016. Merci pour cet entretien.
Merci à vous, hein. J'étais très heureux de m'exprimer pour les auditeurs de Marmite FM.
Merci beaucoup.
Marmite fait son actu, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct, toujours à la même heure, à 17h. Bonne suite de programme sur Marmite FM 88.4.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h, en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.